C'est un grand jour aujourd'hui, le 13 juin. C'est la fête de Saint-Antoine de Padoue, ce saint extrêmement populaire et par contre extrêmement intéressant quand on le connaît bien. Il faut vraiment apprendre à le connaître. Et nous parlerons aussi du bienheureux Gérard, le frère aîné de Saint-Bernard, qui a été un moine au tout début de la réforme cistercienne. Un moine admirable, bien qu'il n'était qu'il lettré au fond, et un économe, c'est-à-dire un célérier. C'était un saint qui est très touchant, le bienheureux Gérard. Mais nous parlerons tout d'abord de Saint-Antoine de Padoue. Saint-Antoine de Padoue, qui ne connaît pas Saint-Antoine de Padoue? On dit que à peu près sur 120 églises, si on met 120 églises, il y en a à peu près 80 et même des fois 100 dans un diocèse ou dans une région qui auront une statue de Saint-Antoine de Padoue, habituellement avec l'enfant Jésus dans ses bras. Et alors, très naïvement, moi je me souviens quand j'étais jeune, et je commençais à lire et puis à étudier un peu ma religion de façon plus sérieuse quand on a 13, 14, 15 ans. Au collège, Saint-Antoine de Padoue devenait un saint tout à fait secondaire, peu intéressant. C'était le saint des pauvres bonnes femmes qui avaient perdu un objet, le saint des objets perdus. Mais c'est tout autre chose quand on se met à étudier Saint-Antoine de Padoue. J'étais émerveillé un peu plus tard, vers l'âge de 18-20 ans, d'apprendre qui était ce Saint-Antoine. Saint-Antoine qui a vécu à Padoue, évidemment, puisqu'on l'appelle ainsi. Padoue, c'est près de Venise, tout près de Venise. Et j'espère que vous êtes déjà allé dans cette basilique magnifique que l'on a construite autour de son tombeau. C'est absolument extraordinaire. Absolument extraordinaire. C'est une très, très belle église, ancienne, hein, du XIIIe siècle. Et le tombeau de Saint-Antoine est peut-être l'un des plus beaux tombeaux, à mon goût, que j'ai vu de ma vie. D'une sobriété absolument franciscaine. De la pierre rude. Un tombeau dans la forme vraiment des reliquaires ou des tombeaux. Donc, une espèce de petite maison, si on veut. Et, mais, grandeur d'homme. Placé sur des piliers de pierre rude aussi, très pauvre et très simple. Au point qu'on peut circuler sans se pencher sous ce tombeau. Et beaucoup de gens, des millions de gens au travers des siècles sont passés sous ce tombeau, comme je l'ai fait avec grand plaisir et grande foi quand je suis allé vénérer Saint-Antoine. Car j'ai appris à l'aimer. Faut dire que la basilique là-bas ne désemplit pas de fidèles qui viennent l'invoquer de toutes les parties du monde. Et quand on y pense que dans presque toutes les églises, cette statue est là, qui, dans un esprit assez contraire au fond, à ce qu'est vraiment Saint-Antoine, non pas que ce n'est pas sympathique de le voir tenir dans ses bras l'enfant Jésus, mais il y a quelque chose là qui me gêne un peu. C'est d'accord la représentation d'un prodige qui a eu lieu alors que Saint-Antoine séjournait dans la maison d'un bourgeois, d'un homme assez riche à Châteauneuf-la-Forêt, en Haute-Vienne, c'est-à-dire en Haute-Vienne, disons dans la région de Limoges. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un peu vers le sud de la France, un peu vers l'ouest. C'est tout à fait dans le creux de la France, hein, à Châteauneuf-la-Forêt, où je suis déjà allé d'ailleurs. Et alors, c'est une belle région, la Haute-Vienne. Il a séjourné assez longtemps dans cette région. Il a même occupé un poste important, Saint-Antoine, au tout début des franciscains. C'est l'un des saints, donc, les plus populaires de la chrétienté. Mais saviez-vous qu'il n'est pas italien? C'est un portugais. Et aujourd'hui, en ce 13 juin, qui est le 8e centenaire de sa naissance, aujourd'hui même, les cérémonies à Padoue sont probablement plus grande encore que dans la cathédrale de Lisbonne. Mais à Lisbonne, aujourd'hui, il y a eu ce matin, sans doute, car ils sont six heures à l'avance sur nous, n'est-ce pas, ils ont dû avoir des cérémonies fantastiques. Et ils en auront sans doute toute la journée. Ça doit s'achever là-bas. Il est 5 heures. Mais sans doute que les cérémonies sont très grandes à Lisbonne, au Portugal. Et il a parcouru notre Saint-Antoine, qui, comme franciscain, il a parcouru le sud de la France. Car il n'a pas toujours été franciscain, je vous expliquerai ça. Il a combattu dans le sud de la France les fameux cathares. Ce serait trop long de vous expliquer. Souvent, les cathares, aujourd'hui, sont bien vus par certaines personnes un peu ésotéristes. Tout ce qui semble être contraire à la foi catholique à travers l'histoire, on se penche sur ces gens, puis on s'identifie à eux, on se dit « Ah, les catholiques sont affreux, ils ont persécuté les cathares ». Mais il faut bien étudier l'histoire, et je vous recommande d'être prudent dans vos jugements sur les catholiques de l'époque, et aussi peut-être sur les cathares, qui étaient en général des hommes sincères, dans leur façon d'interpréter le bien et le mal. Et dans la même région, là, c'est en Corrèze, à Brive-la-Gaillarde, qui est une ville très importante aujourd'hui. C'est une ville, d'ailleurs, où il y a des expositions du livre extrêmement importantes en France. C'est une ville de grande culture. Eh bien, il a fondé un couvent, là, à Brive-la-Gaillarde, qui est une jolie ville. Et il a récupéré là, écoutez bien ça, miraculeusement, un manuscrit qui avait été dérobé par l'un de ses propres frères qui avait quitté les franciscains, un jeune. Il avait volé, en somme, un psautier. Et à cause des prières d'Antoine, ben l'objet a été retrouvé. Et c'est de là que vient cette fameuse réputation de Saint-Antoine qui permet de retrouver les objets perdus. Je vous expliquerai ça de long en large. À la mort de saint François d'Assise en 1226, Antoine, qui n'était franciscain que depuis environ, je dirais, 6 ans, Antoine a gagné l'Italie. Puis après quelques années de prédication absolument sensationnelle, il s'est retiré près de Padoue dans une cellule en bois. Mais une cellule en bois qui était construite, vous pouvez pas imaginer où, en haut d'un noyer énorme, un arbre, un peu comme les enfants qui aiment bien se retirer dans un arbre. Vous savez, c'est la mode, beaucoup aux États-Unis ça se pratique, mais même ici, je sais qu'il y a des enfants de 8-10 ans qui aiment coucher dans une maison que leur père leur a construite dans un arbre. C'est curieux ce sentiment, ce désir de dormir dans un arbre. Eh bien, notre Saint-Antoine de Padoue aimait ça, même adulte, sans doute son âme d'enfant. Mais je trouve ça bien sympathique. Et vous savez que jeune encore, il était tout gonflé par une hydropisie épouvantable qui l'a fait souffrir. Hein. Et savez-vous qu'il est mort, on calcule peut-être d'après son corps et les études sur ses restes, vers l'âge de 40 ans, mais on croit plutôt qu'il est mort le vendredi 13 juin. On dit le vendredi 13 juin, mais d'autres disent un mardi 13 juin. Je ne comprends pas pourquoi. 1231. Et il a été inhumé à Padoue. Bon. Les guérisons se sont multipliées sur son tombeau. Et, en somme, c'est comme thaumaturge, là. Quelqu'un qui fait des tas de miracles, de guérisons fantastiques, que Saint-Antoine est resté célèbre. Mais je vous assure, et ça, c'est très important, les théologiens sérieux, les historiens sérieux préfèrent mettre l'accent sur ces très beaux sermons. Des sermons, il nous en a laissé écrit une quantité énorme, et qui sont tous inspirés de la Bible, inspirés des lectures que l'on fait à la messe. C'est puisé dans les évangiles, dans la Bible, hein, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament. Et c'est à ce titre, à cause de ces sermons magnifiques, auxquels accouraient des foules énormes. Pourtant, c'était des sermons sérieux, des sermons qui étaient bien faits, qui étaient enchanteurs pour les gens instruits. Eh bien, ça attirait les foules parce qu'il savait parler avec son cœur. Puis il savait vraiment livrer ses grands messages de la foi chrétienne aux foules les plus simples. On dit qu'il y avait parfois à Padoue jusqu'à 30 000 personnes qui venaient l'entendre. Imaginez-vous ça. 30 000 personnes, comment faisait-il sans système de son, sans haut-parleur, pour se faire entendre? Il devait parler dans des endroits où la voix pouvait être portée facilement. Les observations scientifiques, je vous ai dit, sur son squelette, ont fixé sa mort au bout, à peu près vers 30 ans, Ça fait donc remonter la date de sa naissance, puisqu'il est mort en 1231, à 1190. Mais d'autres disent qu'il est plutôt né en 1195. C'est curieux qu'on ne sache pas vraiment la date de sa naissance. C'est qu'il faut dire qu'on n'attachait pas tellement d'importance à la date de la naissance, proprement dite, des saints. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fête le 800e anniversaire de sa naissance. C'est parce que la date est fixée plutôt à 1195. J'ai déjà rencontré, moi, des gens assez âgés en Afrique, quand on leur demandait « Quand êtes-vous né ?» Ils me regardaient comme si c'était une question qui n'avait aucun intérêt. Ils ne savaient même pas en quelle année ils étaient nés. Ils avaient peut-être 75 ans, peut-être 72 ans, peut-être 78 ans, et ils ne le savaient pas. C'est curieux. Alors, son père et sa mère appartenaient tous deux à la noblesse. Ils habitaient à Lisbonne, donc au Portugal, près de la cathédrale où aujourd'hui on célèbre en grande pompe le 800e anniversaire de sa naissance. Et c'est là qu'il a été baptisé du nom de Ferdinand. Ferdinand, finalement, comme les Portugais aiment bien l'amener, l'appelait Ferdinand de Lisbonne. Mais c'est toujours notre Antoine de Padoue. Hein? Alors, il a fréquenté l'école du chapitre des chanoines. J'en ai déjà parlé des chapitres. C'est les chanoines, ou les prêtres qui sont costumés un peu plus solennellement, n'est-ce pas, et qui dans nos cathédrales, mais encore aujourd'hui ça arrive, récitent l'office comme des moines dans les monastères. Alors donc, il est allé étudier là, parce qu'il y avait d'excellents professeurs, et puis un de ses oncles, d'ailleurs, était membre de ce chapitre. Et vers 16 ans, il a renoncé à toutes les carrières qui s'ouvraient devant lui, parce qu'il commençait déjà à être instruit, puis il est entré au couvent des chanoines réguliers de Saint-Augustin, à Saint-Vincent. Il est demeuré là seulement 2 ans. Et puis, cette maison était trop proche de la ville. Et notre jeune Ferdinand, Antoine de Padoue, a demandé de quitter ce couvent pour celui de Coimbre, qui est très réputé au Portugal, où il croyait qu'il recevrait moins de visites de ses amis et qu'il pourrait se livrer alors beaucoup plus à la prière qu'à l'étude. Le monastère de Sainte-Croix de Coimbre était vraiment un foyer de culture intellectuelle des plus remarquables dans toute l'Europe. Les professeurs qui étaient venus de Montpellier dans le sud de la France, de Paris, de Toulouse, et qui y enseignaient dans ce couvent. La bibliothèque était bien pourvue. C'était un monastère solide, bien construit, plutôt à l'aise. Hein. Et notre jeune Ferdinand s'intéressa particulièrement à l'étude de la Bible dans ce couvent des chanoines réguliers de Saint-Augustin. Et alors, il avait l'idée de se rendre capable de répondre à toutes les objections que faisaient, tant au Portugal qu'en Espagne, les musulmans qui occupaient depuis des siècles ces terres-là. Ils avaient conquis ça à cheval avec leur sabre et tout ça. Il ne faut pas oublier ça. Et puis, ils voulaient lutter aussi avec la Bible contre toutes les sectes hérétiques qui ont toujours existé depuis le début de l'Église, on le sait. Il y a toujours eu des sectes pour s'opposer à la foi de l'Église. Mais la vie religieuse des chanoines réguliers de Sainte-Croix ne le satisfaisait pas. À ses yeux, c'était un monastère trop riche, qui était mal géré. Il était gêné par les ingérences de la cour, des ingérences royales dans la discipline des chanoines réguliers. Alors, il faut se rappeler aussi qu'à ce moment-là, au début du XIIIe siècle, la chrétienté vivait des événements décisifs. Hein. C'est en 1209 qu'avaient commencé dans le sud de la France les opérations contre les cathares. Puis le 16 juillet 1212, c'était une grande étape pour l'Église. Il y avait eu la reconquête espagnole sur les musulmans, sur les maures. Dans le Languedoc, dans le sud de la France, Saint-Dominique, le grand Saint-Dominique, réunissait les premiers dominicains, les premiers frères prêcheurs. Et à Assise, eh bien, Saint-François, lui, voyait venir à lui les premiers franciscains. C'était une époque fantastique. À Rome, il y a eu le fameux concile du Latran IV, très important concile, qui, sous un aspect, a relancé la croisade, d'accord? Mais c'est ce concile qui a légiféré sur les ordres religieux nouveaux. pour en faire vraiment des ordres sérieux. Car c'était des jeunes mendiants, des jeunes qui rentraient là-dedans. Faut pas se faire d'illusions, c'était pas des hommes de 50 ans. C'était des jeunes pleins de feu et de flamme qui avaient 20 ans. Et on voit là, donc, à cette époque, combien les années de jeunesse de Ferdinand se déroulaient dans une grande mutation sociale, une mutation religieuse fantastique. Et en 1217, les franciscains se sont établis près de son couvent de Coimbre. Alors notre Ferdinand, je vous rappelle, c'est toujours Antoine de Padoue qui s'appelait Ferdinand dans ce temps-là, ils se sont rencontrés parce qu'ils sont venus mendier à la porte du couvent. Vous savez, les franciscains au début c'était très pauvre, c'est des mendiants. Même quand j'étais jeune, vous savez, ils pouvaient attendre un tramway, il y avait des tramways dans le temps. Et quand on voyait un franciscain qui avait ses sandales, son costume, vous savez qu'il portait, je le dis ça pour les jeunes qui pourraient ne pas me croire qu'on a connu ça, nous, mais les franciscains portaient des tonsures très spéciales. Quoi, les tonsures? Ben, ils avaient le crâne rasé, là, un peu comme des punks, et puis ils avaient une couronne de cheveux, une coiffure punk, si on veut, pour, je dis ça pour les jeunes, là. Et c'est une coiffure qui symbolisait comme la consécration à Dieu, hein. Et ça vient sur des anciennes religions égyptiennes où les prêtres se tondaient les cheveux comme ça pour signifier leur consécration aux dieux égyptiens. Et ça a toujours existé, et ça existe chez les bouddhistes. C'est une tradition très, très, très ancienne et très naturelle à tous les hommes, dans toutes les religions, pour ainsi dire. Et alors donc, les franciscains venaient quêter au couvent de Sainte-Croix. Et nous, quand on était jeunes, ils attendaient le tramway, puis ils avaient pas de billet. On leur donnait un petit billet, ça coûtait 3-4 sous. Mais ils avaient même pas 3-4 sous dans leur poche. Hein. Ils ne touchaient jamais à l'argent, les franciscains, quand j'étais jeune. Alors donc, il a fait parler ces franciscains-là sur le genre de vie que François d'Assise et ses frères menaient là-bas en Italie. À la fin de l'été 1219... Vous devez connaître ça dans l'histoire des franciscains au début, c'est un événement étonnant. Hein. Il y a 5 franciscains, qui se rendaient en mission parmi les musulmans. Ils sont passés par l'Espagne, puis le Portugal, ils sont passés par Coimbre, où habitait Ferdinand. Ils ont été logés dans son monastère. Puis le sultan de Séville, je vous ai dit que c'était les musulmans qui occupaient la péninsule qu'on appelle Ibérique, toute la péninsule d'Espagne et du Portugal. Alors le sultan de Séville, la fameuse ville de Séville, les a fait passer sous bonne garde au Maroc, où il voulait aller pour parler avec les musulmans du christianisme. Le Maroc, c'est juste au sud de l'Espagne, de l'autre côté, du détroit de Gibraltar. Et alors, moins d'un an après, ce furent leurs 5 cadavres qui sont revenus pour être enterrés à Sainte-Croix, au monastère, sur les ordres de l'infant Don Pedro. Et cette confrontation de Ferdinand avec les premiers martyrs franciscains a déterminé sa nouvelle vocation. Et alors, 8 années après son arrivée à Sainte-Croix, où il avait reçu le sacerdoce, eh bien, Ferdinand a quitté les chanoines réguliers qui l'ont regretté, puis il s'est fait franciscain. Ça a eu lieu certainement avant le 22 septembre 1920, parce que il n'a pas fait de noviciat. Puis c'est à cette date, le 22 septembre 1220, que Saint-François a imposé à son ordre cette année de noviciat, de probation. C'est à ce moment-là, donc, que Ferdinand a pris le nom d'Antoine, a changé de nom en devenant franciscain. Et son intention arrêtée était de passer au Maroc pour y prêcher l'Évangile, comme les 5 qui s'étaient fait tuer. Alors, embarqué à Lisbonne avec le frère Philippe, je vous donne son nom au long si ça vous intéresse, Philippe del Cardella di Montalcino. Bon, Dieu que les noms étaient encore plus longs que les miens. Puis, il est débarqué à Ceuta, dont il n'a pas été capable de s'éloigner au Maroc. Et c'est sensiblement la même date que Saint-François se trouvait aussi en terre d'islam. Vous savez que Saint-François est allé discuter avec les musulmans. Ce n'est un épisode extraordinaire dans la vie de Saint-François. Et rapidement, Antoine est tombé malade, fièvre et même une espèce de langueur qu'on appelle aussi une dépression, si vous voulez, mais c'est pas vraiment une dépression, c'est une espèce de langueur. Et Ça a duré tout l'hiver, puis au printemps de 1221, eh bien, il était pas vieux, notre Saint-Antoine de Padoue, là. Il avait 26 ans, quoi. Antoine et son compagnon Philippe ont pris cette maladie comme un signe de Dieu, que leur place n'était pas au Maroc. Et c'est comme ça qu'il a été sauvé de la mort, parce qu'autrement, je pense qu'il serait mort, il s'y serait passé. Et le bateau qui devait les rapatrier de Ceuta a fait fausse route et est allé s'échouer à Messine, en Sicile, dans le sud de l'Italie, imaginez. Et Antoine y demeura au couvent franciscain, mais là, à Pâques de 1221, il a pris avec les autres frères le chemin d'Assise pour assister à la grande réunion générale, le grand chapitre de Pentecôte du 30 mai. Alors, inconnu de tous, Antoine a été appelé par le frère Gratien, qui était le provincial de toute l'Italie du Nord, qui lui a offert de rejoindre un ermitage de Monte Paolo, où vivait un petit groupe de frères laïcs, franciscains, auxquels il assurerait l'Eucharistie, puisqu'il était prêtre. Et mal guéri, il n'a jamais été totalement, il a souffert d'hydropisie, comme je vous ai dit, toute sa vie, mais Antoine a aggravé sa maladie par le jeûne et les pénitences. Il s'est retiré dans une grotte où il pouvait prier à son aise. Et vers septembre 1221, ou au printemps 1222, on n'est pas sûr, on lui a demandé de prêcher, à l'improviste, à l'occasion de l'ordination, d'une ordination. Là. Écoutez bien ça, son homélie a révélé à tous sa science et son expérience de contemplatif. Une prédication là, avec de la science, des connaissances. Une prédication qui part de la contemplation, de la prière. Pour moi, c'est ça un grand prédicateur. C'est ça un prédicateur qui bouleverse les cœurs des chrétiens et qui nous convertit. Alors, il a tout de suite été extrait de son ermitage, où il s'occupait de ses frères laïcs, puis était envoyé en prédication, et vers la fin de 1223, il a reçu de Saint-François lui-même la charge d'enseigner la théologie. La théologie, il était un très grand professeur de théologie, aux frères franciscains, ce qu'il a fait à Bologne et à Padoue, deux belles villes. Vous connaissez ça, Bologne, j'espère. Oh, quelle belle ville avec ses arcades. Vous savez qu'on peut se promener à Bologne pendant des heures sans se faire tremper par la pluie, parce que il y a des arcades comme ici sur la rue Saint-Hubert à Montréal. Mais des bien plus belles arcades que les nôtres. Alors, à Padoue, l'université venait juste d'être fondée. Il a donc été un des premiers professeurs de l'université de Padoue. On n'est pas sûr de la date à laquelle Antoine a été envoyé en France, mais on peut pencher là pour 1224. Ceux dont les familles viennent des régions là, de Limoges, de la Corrèze, du sud de la France, leurs ancêtres ont probablement entendu Saint-Antoine de Padoue, car les foules accouraient. Sa présence en certains endroits était assurée sans qu'on puisse tracer un itinéraire précis, ça n'a pas tout été écrit. Entre les cas, il est attesté qu'il est passé à toutes sortes d'endroits, même Montpellier, etc., dans le sud de la France. Mais il est attesté, entre les cas, à l'abbaye de Solignac, où on l'a soigné d'une rechute de ses fièvres, puis à Châteauneuf-la-Forêt, dont je vous ai parlé, où il aurait eu cette fameuse apparition de l'enfant Jésus chez un bourgeois où il logeait. Le bourgeois se demandait ce qu'il faisait, notre Antoine de Padoue, dans la nuit, à un moment donné, parce que il s'inquiétait pour savoir si Antoine dormait, ou bien si Antoine priait, ou si Antoine faisait autre chose. Il a regardé par le trou de la serrure. Et qu'est-ce qu'il a vu? Antoine, qui caressait un enfant qui était debout devant lui, et qui l'embrassait, et ils riaient tous les deux. Et le bourgeois a porté la chose, et Antoine a admis que l'enfant Jésus lui était apparu. C'est assez curieux, en tous les cas. Passons. Il est allé à Bourges. Oh, la cathédrale de Bourges était beau, cette cathédrale. Très, très beau. Une belle cathédrale, des vitraux magnifiques. Hein. Vous avez dit que je suis allé partout, mais c'est un peu vrai. Je me suis beaucoup promené. Hein. Puis, il faut dire que j'ai fait un long voyage en 1949-50. Et alors donc, il a blâmé publiquement à Bourges l'archevêque du lieu. Imaginez. Il n'était pas gêné, hein? Parce que l'archevêque se conduisait mal, vivait dans la richesse. Puis il a assisté à Bourges le 30 novembre 1225 à un concile qui était présidé par un légat du pape. Imaginez, c'est là qu'il et a parlé de façon sévère à l'archevêque. C'est un peu curieux. Hein? Alors donc, on place aussi à Bourges le miracle de la fameuse mule. Vous avez entendu parler de ça, hein? Qui se serait agenouillée devant Saint-Sacrement. On voit aussi le frère Antoine à Saint-Junien, ainsi qu'en Provence, dans la belle Provence, au sud de la France. À Limoges, dont je vous ai parlé, aurait eu lieu le miracle aussi de bilocation. Et il a été en train de prêcher dans une église, et puis dans le couvent où il était le custode, ça se dit comme ça en termes franciscains, il était le gardien du couvent, quoi. Eh bien, il devait faire une lecture pendant l'office. Et il a fait la lecture d'une part, puis de l'autre côté, il s'apprêtait à prêcher, et tout le monde l'a vu dans l'église, ils l'ont vu dans les deux endroits. Il a fondé dans la ville de Limoges un couvent, je vous l'avais dit, sur un terrain donné par l'abbaye de Saint-Martin, où il avait prêché, puis à la mort de Saint-François, le 4 octobre 1226, son successeur, le frère Élie d'Assise, a convoqué tous les ministres au chapitre général pour le 30 mai 1227, et Antoine, qui avait reçu en France le surnom de « marteau des hérétiques », imaginez, tant sa prédication avait été efficace, a regagné l'Italie. Donc, revenons à notre Antoine de Padoue. Il regagne l'Italie. Puis au chapitre général, il est tout jeune encore, Antoine est élu provincial pour toute l'Italie du Nord, ce qui lui impose évidemment de nombreux déplacements pour la visite canonique. Les visites canoniques, je rappelle, pour les plus jeunes qui se demanderaient ce que c'est que des visites canoniques, ce sont des visites que les supérieurs doivent faire des différents couvents, des différentes maisons où habitent leurs moines ou des franciscains, là. Puis ça, c'est conforme aux règles de l'Église catholique. Il faut que, dans l'Église, chaque maison soit étroitement surveillée pour éviter qu'il y ait des abus, qu'il y ait des moines qui soient maltraités, qui puissent se plaindre de quelque chose d'injuste, afin que la justice règne, que l'ordre règne, que la prière règne, que la charité, la bonté règne. Hein? C'est très bien organisé. Et puis, il fallait qu'il prêche, il était très recherché, et durant l'hiver 1228-1229, donc il n'a que 33 ans, on le trouve au couvent dit Mater Domini, ou, si vous voulez, Mère de Dieu, Sainte Marie, à Padoue. C'est alors qu'il commence à rédiger ses fameux sermons dont je vous ai parlé au tout début, les fameux sermons pour les dimanches, ces sermons qui ont été acclamés, qui ont permis à cet homme de devenir un docteur, d'être considéré comme un docteur de l'Église. Il a prêché en 1230, devant la cour du pape à Rome, hein? Et le pape l'a appelé, de nom très étrange, Arca Testamenti, je traduirais ça, Arche des Testaments, et Sacrarum Scripturarum Scrinium, mon Dieu, disons-le, l'écrin de la Bible. Et puis, le pape a souligné les connaissances bibliques d'Antoine, les confirmés prédicateurs ambulants. Bien, il est retourné à Padoue à l'automne de 1230. Il avait 35 ans, et un an avant sa mort. Et à la demande du cardinal protecteur de l'ordre des franciscains Rénal de Signy, eh bien, il a entrepris la rédaction de ses sermons pour les fêtes, puis s'est fixé au couvent de Mater Domini. C'est cette tâche d'écrivain qui a cessé le 5 février 1231, quelques mois avant sa mort, au bénéfice d'une prédication de carême qu'il entreprend pour toute la ville de Padoue. Toute la ville de Padoue. Il parlera tantôt dans une église, tantôt en plein air, et c'est là qu'il a réuni, dit-on, 30 000 auditeurs en plein air. Alors Antoine a le sentiment que sa fin est prochaine, c'est alors qu'il est pris dans sa cellule d'une crise de suffocation, suivie d'une sorte d'hallucination, un épisode que les biographes traduisent symboliquement par une espèce d'attaque démoniaque suivie de la vision surnaturelle d'une lumière divine. Et surmontant sans fatigue, Antoine passe du sermon à l'audition des confessions. C'était un très grand confesseur. Et finalement, bien, Antoine obtint de son professeur la permission de se retirer, de s'aménager encore dans un petit abri, dans un noyer,
dans un noyer, un arbre. Mais sa santé déclinait. Puis il a parlé de sa mort prochaine. Alors, il s'est fait transporter à Padoue au début de juin. Je vous rappelle, il est mort un 13 juin. Les frères qui l'accompagnaient, le malade, en carriole, ont jugé prudent s'arrêter avant la ville, à Larchelle, là où vivaient des frères franciscains au service du monastère des Clarisses voisines. Et là, le vendredi 13, eh bien, Antoine s'est confessé, fut rempli d'une telle joie qu'il chante à l'âme l'hymne marial au Gloriosa Domina. Je traduirai ça pour ceux qui ne comprennent pas le latin, là. Ô glorieuse seigneuresse. C'est un chant à la Sainte Vierge. Et son regard s'est attardé sur une image qui n'était vue que de lui seul. Et il a dit, « Je vois mon Dieu, l'apparition du Christ », dit-il au frère qui l'interrogeait. J'ai le goût de vous parler de la mort du frère Hilaire à Saint-Benoît-du-Lac, dans les années 40. Le vieux frère Hilaire, au regard bleu d'une beauté exceptionnelle, très âgé, frère convert, et qui est mort à Saint-Benoît-du-Lac en disant aux prieurs et aux moines autour de lui dans sa chambre, « Ah, je la vois. » Il était certain qu'il voyait la Vierge. Et le père prieur, Don Mercure, à l'époque, m'a dit, « Je suis persuadé qu'il l'a vu. » On a pensé, d'ailleurs, à obtenir sa béatification à Saint-Benoît-du-Lac. J'espère que c'est en marche et que le procès aura lieu. Ce serait un saint délicieux que le frère, le bon frère Hilaire de Saint-Benoît-du-Lac, bénédictin, n'est-ce pas, frère convert, qui était né en France. On a donné l'onction des malades à Saint-Antoine, puis il expirait lucidement, calmement. Et savez-vous que son cadavre est demeuré souple, clair, le visage toujours souriant, jusqu'à son ensevelissement. Il n'avait, on dit que 40 ans d'après les sources, d'autres 36 ans. Il a passé à peu près, disons, 11 ans, une dizaine d'années chez les franciscains, c'est tout, hein. Une vie courte, très courte, mais remplie, hein. On savait qu'il avait formulé le souhait d'être enterré à Sainte-Marie, en ville, à Sancta Maria Mater Domini, en ville. Mais les Clarisses prétendaient garder son corps. Elle voulait garder son corps. Les autorités ont été obligées de trancher la polémique. Puis la sépulture provisoire en terre de l'Arcella, où il est mort, fut suivie d'une marche plus triomphale que funèbre jusqu'à Sainte-Marie, là, à Padoue. Ce sera inclus plus tard dans la vaste basilique qu'on voit aujourd'hui. À la suite d'un procès sans obstacle, un procès qui s'est fait très vite. Hein. Écoutez bien ça, Antoine a été canonisé par Grégoire IX à Spolète quand? Le 30 mai 1232, c'est-à-dire moins d'un an après sa mort, imaginez. Hein. Parce qu'il y a eu tellement de miracles après sa mort, que le pape s'est vu, pour ainsi dire, comme contraint de le canoniser. Et le corps est demeuré dans la petite église des frères durant toute la construction de la basilique. Deux aspects de saint Antoine de Padoue sont à mettre en relief. C'est un des saints favoris, bon, de la religion populaire, mais c'est aussi un docteur de l'Église. Je vous le répète, des enquêtes menées selon des méthodes scientifiques à Padoue, puis en d'autres points, analysent ce qu'on appelle le phénomène antonien, c'est-à-dire les formes, les racines de la dévotion actuelle à Saint-Antoine. Je vous ai dit que sur 104 églises paroissiales, mettons simplement à Paris, par exemple, mais 83 possèdent une statue ou une autre image de Saint-Antoine de Padoue, entourée de toutes les marques d'un culte actif. Hein. Il y a des cierges, des fleurs fraîches, des attouchements de la statue. Vous savez, on voit de plus en plus ces gens-là qui nous viennent d'un peu partout dans le monde et qui sont catholiques comme nous, mais catholiques avec plus de sensibilité peut-être, plus d'émotivité, puis qui vont en avant des églises et touchent les statues. Ça nous étonne un peu, nous, les Québécois de souche. Hein. Il y a un désir de faire ça avec Saint-Antoine. Puis il y a des ex-voto aussi, vous savez, ces petits cadres sur lesquels on remercie pour faveur obtenue. Hein. Ce qui font cette dévotion qui est vérifiée dans tous les milieux sociaux, c'est la confiance en la puissance d'intercession de notre saint Antoine de Padoue. Et cette puissance est reliée à une image traditionnelle d'Antoine, regardé surtout comme un homme qui fait beaucoup de miracles, un thaumaturge. Une discussion reste ouverte entre les historiens sur l'authenticité des miracles qu'aurait accompli Antoine de son vivant. Le doute est fondé sur le fait que ces actions ne sont rapportées que par des sources qui sont relativement tardives, puis qu'on les rend compte attribuées à des personnages antérieurs à lui, ou des données comme... C'est donné comme exemple à raconter par des prédicateurs pour détendre la foule ou bien pour édifier les gens. Mais en tous les cas, ce qui est hors de doute, là, et ça je tiens à l'affirmer, ce sont les miracles constatés aussitôt après la mort d'Antoine qui ont été retenus pour sa canonisation. Ceux-là sont authentiques, en bonne partie du moins, parce qu'ils ont été vérifiés, revérifiés et re-revérifiés par des gens extrêmement sérieux. D'autre part, l'image de saint Antoine avec l'enfant Jésus dans ses bras, la corbeille de pain destinée aux pauvres, le lys aussi, symbole d'innocence, le livre de l'Évangile, qui sont ces attributs qu'on voit dans les statues ou les images, les plus fréquents, là, ça évoque des valeurs du christianisme, solides, les mystères de la foi qui parlent d'eux-mêmes, ça parle d'incarnation, de charité, de douceur, ça parle de belles choses, ça a l'air, je le dis, ça a l'air quétaine, mais ça ne l'est pas. Car derrière les signes, il faut voir ce qui est signifié. Il faut toujours faire attention quand on entre dans une église. On peut voir des choses quétaines, ça n'a pas d'importance. C'est ce qui est représenté qui compte, ce qui est derrière, ce qui est à l'intérieur. L'enquête de Padoue, menée sur la base de questionnaires, a démontré que la dévotion à saint Antoine ne repose pas sur des actes de superstition, mais bien sur des actes qui viennent de la foi et qui y reconduisent. Par la dévotion qu'il inspire, même si elle a des faces assez intéressées, les gens vont l'invoquer pour obtenir des, je risque le mot, mais presque des bébelles, des petites faveurs, un peu égoïstes. Eh bien, Antoine continue sa mission d'avocat des pauvres. C'est un réconciliateur, c'est un évangélisateur. L'omniprésence, ne l'oubliez pas, de l'ordre franciscain dans le monde, et qui a rendu jusqu'à ces derniers temps reconnaissable l'image d'Antoine à l'habit que les franciscains portaient. On reconnaissait tout de suite Antoine comme un franciscain, puisqu'on les voyait dans la rue, dans les autobus, le métro, partout. On les voit plus, ils sont disparus. Mais ça a contribué, ça, à la diffusion de son culte. Tout comme ce culte a aidé l'ordre franciscain à susciter des tas de vocations. Des enfants qui étaient conduits au pied de ses statues rêvaient de s'habiller comme lui, de vivre comme lui, d'aimer Jésus comme lui, de lire l'Évangile comme lui, de devenir des prédicateurs comme lui. Mais où sont les franciscains? On ne les voit plus. C'est dommage. C'est comme terminé, hein? Sauf dans certains pays. Il m'arrive des fois, on voit ça, dans certaines régions d'Italie, tout à coup arriver une bande de franciscains, même des jeunes qui courent, les sandales aux pieds, ils ont les cheveux un peu longs, bon, ils ont la barbe même des fois. Ils sont sympathiques, ils rigolent, ils ont du plaisir, ils sont franciscains dans la joie. C'est engageant. Je crois que il n'y a pas de mal à porter ces costumes-là. Moi, je trouve ça fait d'ailleurs un peu hippie, comme on disait il n'y a pas longtemps. Après tout, pourquoi pas? Enfin, peut-être que j'ai tort. Alors, il est normal, donc, que la dévotion à Saint-Antoine ait produit des manifestations, de type folklorique. C'est normal, surtout dans les pays méditerranéens, dans les anciennes colonies espagnoles ou portugaises. Le patronage d'Antoine, pris par les corporations d'ouvriers, et son invocation pour retrouver des objets perdus, son nom donné à un grand nombre d'enfants. Est-ce qu'il y en a des Anthony, des Tony, Tony, là, vous savez, Antonio, Tonio, on entend ça tout le temps, hein? Sa présence dans des cortèges puis des processions, tout ça, ça le rend vivant, même si sa véritable mémoire, sa personnalité sont moins bien connues. L'autre caractéristique de saint Antoine de Padoue est qu'il a été proclamé docteur de l'Église latine. par le pape Pie XII, le 16 janvier 1946, avec le grand qualificatif de docteur évangélique, puisque sa doctrine, sa pensée, sa réflexion était appuyée sur l'Évangile. Ce titre se fonde donc sur son activité de prédicateur, sur les recueils de ses sermons. Et bien qu'il ait prêché dans la langue vulgaire, des régions presque en patois où il se trouvait, bien Antoine a écrit en latin médiéval, c'est pas un très beau latin, mais en latin médiéval, les deux recueils, dont l'attribution à saint Antoine de Padoue ne fait aucun doute, c'est certain que c'est lui. Seules les citations des auteurs de l'Antiquité sont en latin classique dans les textes originaux. Il faut noter qu'Antoine n'appelle pas ses écrits des sermons, mais « opus evangelicum » ou même « evangelium », ça veut dire quoi? Ben, œuvre évangélique, évangile, c'est comme ça qu'il appelle ses affaires. Il appelle ça aussi le quadrige. Pourquoi? Mais c'est en raison des quatre matériaux qu'il utilise. Il utilise les évangiles liturgiques qu'on lit pendant la messe, donc, les offices, les lectures liturgiques de l'Ancien Testament, donc encore pendant la messe ou les offices, l'introït, c'est-à-dire le premier petit texte qu'on lit au début de la messe, je vous le signale, c'est la lecture d'ouverture, les gens qui se demandent ce que c'est qu'un introït. Puis les épîtres des messes, les épîtres, comme je vous le rappelle aussi, ce sont des lettres qu'ont écrites les premiers apôtres et qu'on lit pendant les messes. Donc, ces écrits, qui constitueraient plutôt un manuel de prédication, les écrits d'Antoine, ne reproduisent pas ce qu'Antoine a prêché, mais Antoine a réuni des matériaux. Il présente donc des suggestions pour les étudiants en théologie, et particulièrement pour les franciscains. C'est ça les écrits de saint Antoine. On doit se souvenir qu'Antoine avait reçu chez les chanoines réguliers, dans sa jeunesse au tout début, une formation solide. Le monastère de Sainte-Croix de Coimbre, là, des chanoines réguliers Saint-Augustin, était en relation avec le fameux couvent de Saint-Victor de Paris, puis avec les écoles même de médecine de Montpellier. Et il s'y trouvait une bibliothèque contenant les livres de la Bible, les écrits des pères de l'Église, des extraits des classiques païens même. Vous savez que ces grands saints ne négligeaient pas de lire les grands auteurs. Ils étaient cultivés. Cultivés. Il ne faut pas avoir peur de la culture. Est-ce que notre pape n'est pas un homme très cultivé? Oh, je sais bien qu'il y a des gens qui n'aiment pas le pape. Moi, je l'aime beaucoup, ce pape. Vous en parlerez un jour. Je l'aime beaucoup. Et c'est un homme profondément cultivé. J'aime le lire et je trouve que son jugement est très grand. Chez les frères mineurs, donc, chez les franciscains, Antoine ne disposait plus de ce matériel qu'il avait chez les chanoines réguliers de Saint-Augustin. Mais ses contemporains signalent la vigueur extraordinaire de sa mémoire. Et depuis, bien, Padoue était une ville où abondaient les livres puis les savants. Et la source de base d'Antoine, qui est la Bible de la liturgie, donc, en tant que prêtre, il lisait ça tous les jours. Mais il cite aussi les commentaires des pères de l'Église. On voit qu'il a puisé dans les bibliothèques à Padoue. Il cite Saint-Ambroise, Saint-Augustin, Saint-Bernard, Saint-Grégoire-le-Grand, Saint-Jean-Damascène, Saint-Jérôme, Origène. Il connaît aussi les grands auteurs païens, entendons-nous, disons les grands auteurs anciens, Aristote, Cicéron, Horace, Juvénal, Ovide, Sénèque. Puis parmi ses contemporains, bien, il connaît même Pierre Lombard. Alors, j'aimerais bien vous parler de Pierre Lombard un jour. Puis Richard de Saint-Victor. Puis Innocent III, ce grand pape merveilleux. Quel grand pape. Puis Lévis des Saints. Il connaît Lévis des Saints. Puis les sciences naturelles aussi. Selon les enseignements qui sont répandus en Espagne par les Arabes. Parce que sa façon de prêcher est plus pastorale que doctrinal. Il va dans le cœur des gens puis essaie de les toucher. Mais avec une doctrine sûre. Parce qu'au fond, comment un prédicateur peut-il instruire les fidèles pour les guider, pour les sanctifier, si ce n'est pas en touchant leur cœur? Puis en les aidant à avoir une vie morale qui a du bon sens. En leur faisant comprendre ce que c'est que les sacrements. D'abord, la messe, l'Eucharistie, comprendre ce qu'on fait à la messe. qu'on y va pour rendre gloire à Dieu. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers, pour offrir au Père le pain et le vin qui deviennent le corps et le sang vivant ressuscité de son Fils, pour qu'on communie au Christ vivant, au Fils éternel, pour plonger dans le cœur de Dieu notre Père, dans l'union de l'Esprit Saint. C'est ça la messe. Comment ne pas y aller tous les jours quand on sait ce que c'est? Et ça ne veut pas dire, donc, que saint Antoine de Padoue, docteur évangélique, ne soit qu'un moraliste. Non, non, non. Son approche de la Bible ne manque pas une seule occasion de rappeler et de développer les articles de la foi. Il ouvre même des horizons, des développements de la théologie au sujet de la Trinité, de l'Incarnation, de la Vierge Marie, de l'Eucharistie. Il est fidèle au mouvement franciscain, qui prend fait et cause pour les pauvres et contre les oppresseurs. Sans être agressif, il dénonce le décalage entre l'idéal évangélique et les réalités vécues par les gens, l'orgueil, l'avarice, la débauche. Il se fonde sur l'unité de la nature humaine, c'est-à-dire que tous les hommes sont des frères. Nous sommes tous des êtres humains. Il se fonde là-dessus. Il se fonde aussi sur l'unité faite par le baptême qui rend tous les hommes également enfants de Dieu. Puis il proclame une fraternité qui n'est pas une fraternité révolutionnaire, là, mais une fraternité qui est génératrice de justice puis de charité. L'amour des pauvres chez cet aristocrate lettré, car il venait d'une famille noble, n'est pas un refus de ce que Dieu a fait de lui, mais un amour de l'homme, du Christ Dieu, homme, et de l'Église, à l'inverse d'une espèce de conservatisme en décadence et d'une bourgeoisie des villes qui montait en classe sociale. C'est toute sa résistance au pouvoir de l'argent, même dans l'Église, que l'on trouve dans ses sermons. Il dit que si un prélat transgresse une décrétale, c'est-à-dire un des ordres ou des lois établies par les papes, donc si un prélat, un évêque, transgresse ça, il est condamné. Mais si le même évêque, dit Antoine, transgresse l'Évangile, en n'aidant pas les pauvres, bien, personne ne le lui reproche. Et c'est ce scandale qu'il ne peut souffrir. Hein. Cet amour des pauvres est resté dans la mémoire populaire et est à la base de la dévotion dont il est l'objet. Dans sa prédication, Antoine correspond au mouvement apostolique de saint Dominique et de saint François, autant qu'aux décisions de ce fameux 4e concile de Latran, dont je vous ai parlé, aux directives de ce grand pape Innocent III, qui a tout fait pour montrer la sainteté du mariage. Il faut lire Innocent III, c'est superbe. On peut regretter que la mort de saint Antoine de Padoue l'ait empêché d'achever son œuvre. Il avait commencé son manuel de prédication au dimanche de la Septuagésime, où débutait aux Brivières la lecture continue de la Bible. Il aurait voulu, tout le long du cadre de l'année liturgique, exposer toute la Bible, toute la Sainte Écriture, pour en livrer le contenu complet sur la foi et les mœurs. Mais au moins, il nous a offert un type de prédication populaire, à la fois biblique, liturgique et patristique, qui inaugure l'influence franciscaine. Quand on pense à ça, on se demande où sont nos grands prédicateurs. Qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu! Je vous reparlerai demain de saint Antoine de Padoue, au début de notre heure, pour vous dire des aspects de la dévotion qui s'est répandue à travers le monde. Mais avant de terminer, il me reste quelques instants. Je vous ai dit que je vous parlerai du frère de saint Bernard, le bienheureux Gérard, qui n'était pas entré avec lui à Cîteaux, à l'abbaye de Cîteaux. C'est là que vient le nom des cisterciens. Mais une blessure de guerre avait suivi une captivité qui avait été très difficile aussi. Puis ça l'avait beaucoup fait réfléchir, un peu comme Saint-Ignace de Loyola. Hein. Et lorsqu'il a été guéri puis libéré, bien, il est venu se faire moine auprès de son frère. Il l'a accompagné à Clairvaux, puis lui a rendu les plus grands services comme économe. Mais il est mort. Et il faut lire. C'est superbe ce qu'il dit avant de mourir. « Seigneur, vous savez que j'ai toujours souhaité le repos pour veiller à mon âme et m'occuper de vous. Mais j'ai toujours été pris dans les affaires, parce qu'il était économe, hein, par votre amour et par mon zèle d'obéissance, surtout par ma tendresse pour mon abbé et frère Bernard. » Et dans la nuit qui précéda sa mort, il a chanté allègrement le psaume 148, « Laudate Dominum de Cilis ». Et Bernard étant arrivé, il a dit, il l'appelait père. C'est beau, il appelait son frère père puisqu'il était abbé. « Père, entre vos mains, je remets mon esprit. » Il répétait ces mots disant « Père, père ». Et se tournant encore vers son frère, qui était père abbé, il dit « Comme Dieu est bon d'être père des hommes, quelle gloire pour les hommes d'être les fils de Dieu, ses héritiers. » Et Saint Bernard a fait son oraison funèbre, puis il a dit « Vous savez, mes enfants, combien juste est ma douleur, combien pitoyable ma blessure. » C'est beau ce frère qui fait l'oraison funèbre de son propre frère, hein? Ce père abbé, Saint Bernard. « Vous voyez, n'est-ce pas, dit-il, quel compagnon m'a abandonné dans la voie où je marchais, quelle énergie au travail et quelle suavité dans ses manières. Qui donc m'était aussi indispensable? Qui donc avait pour moi autant d'amour? Il était mon frère par le sang, mais par la religion, puis fraternellement. Plaignez-moi, je vous en prie. Vous qui comprenez cela, j'étais infirme, il me portait. Je perdais cœur, il me réconfortait. J'étais paresseux et négligent, il me stimulait. Imprévoyant, oublieux, il était ma mémoire. « Oh, pourquoi m'as-tu été arraché, homme uni à mon âme, homme selon mon cœur? Il eût mieux valu pour moi perdre la vie que ta présence, Gérard. Toi qui étais l'instigateur zélé de mes études, mon secours vigoureux, mon examinateur prudent, dis, pourquoi nous sommes-nous tant aimés? Pourquoi nous sommes-nous perdus? Dure condition. » Triste fortune, pour moi du moins, et non pour toi. Il me semble entendre mon frère qui me dit, « Est-ce qu'une mère pourra oublier le fils de ses entrailles? Quand bien même elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai pas. » Et ça continue, et c'est d'une très grande beauté.